Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la radio de la paix. Voici le titre de ce journal. RDC Rwanda, un an après l'accord de Washington, a l'épreuve du terrain. Malgré les engagements pris en juin 2025, les combats persistent entre le FARDC et l'AFC M23, illustrant le fossé entre diplomatie et réalité sécuritaire. RDC au Conseil de sécurité, un bilan alarmant dans l'Est. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la MONUSCO, James Wan, a fait état d'au moins 632 civils tués au Nord Kivu et en Ituri depuis le 19 mars dans un contexte de combat persistant et de résurgence de l'épidémie d'Ebola. Enfants oubliés, avenir à reconstruire, un combat du quotidien à suivre en fin de journal. Le père Eric Merte, coordinateur de 14 centres d'encadrement à Lubumbashi et Kipushi, revient sur les réalités et le défi lié à la prise en charge de jeunes en rupture familiale. Un an après l'accord de Washington, la paix reste fragile dans l'est de la RDC. Signé le 27 juin 2025 entre Kinshasa et Kigali, cet accord devait mettre fin aux tensions et ouvrir la voie à une désescalade durable dans la région. Mais au nord Kivu comme au sud Kivu, les affrontements entre l'armée congolaise et le rebelle de l'AFC M23 persistent, notamment dans plusieurs zones sous contrôle des groupes armés. Sur le terrain, les lignes de front restent actives, les populations continuent de vivre dans l'insécurité et les avancées concrètes se font toujours attendre. Ce contraste frappant entre les engagements diplomatiques et la réalité sécuritaire. Pourquoi cet accord peine-t-il à porter ses fruits et à s'imposer sur le terrain? Élément de réponse avec vous, Jean Gando.
Le terme de cet accord prévoyait notamment le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC dans un délai de 90 jours après sa signature, ainsi que la fin du soutien de Kinshasa aux combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Cependant, dans un communiqué publié le 25 juin dernier, les États-Unis ont une fois de plus demandé le retrait total des forces rwandaises de l'est de la RDC sans plus tarder, à la veille du premier anniversaire d'un accord resté largement inappliqué. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent et continue d'endeuiller les populations civiles. Les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale au nord Kivu, ainsi que ceux d'Ouvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, sont particulièrement touchés. Des milliers de personnes sont déracinées de leur village, tandis que d'importants dégâts matériels sont régulièrement enregistrés. Les belligérants recourent de plus en plus à l'artillerie lourde et à des attaques par drone. Sur le plan économique, certains sites stratégiques comme celui d'exploitation de coltan de Rubaya restent sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23, toujours accusés d'être soutenus par le Rwanda. Ce dernier ont également mis en place une administration parallèle dans certaines zones sous leur occupation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu.
Au-delà des combats sur le terrain, les populations dressent aujourd'hui un constat amer. Accord signé, mais peu de résultats visibles. Au Nord comme au Sud Kivu, l'insécurité persiste et la déception grandit. Les habitants appellent à une pression accrue et à une implication plus forte des partenaires internationaux pour débloquer la situation. Des voix à écouter au micro de Radio Okapi.
Cet accord a une portée à la fois diplomatique et militaire. Tout le monde pensera qu'il n'y a rien qui s'est fait, mais sur le plan diplomatique déjà, il y a plusieurs sanctions qui fragilisent aujourd'hui le Rwanda, plusieurs personnalités du M23, même certaines personnalités de FDLR sont frappées, c'est grâce à l'accord de Washington.
On croyait qu'avec l'accord de Washington, la guerre va prendre effet, mais voilà, une année après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, on salit les différentes sanctions qui ont été prises à la contre de ceux qui ont commis des abus, mais ça ne suffit pas jusque-là. Donc pour nous, nous sommes toujours dans les patiences, parce qu'on croyait qu'avec la signature de l'accord de Washington, la paix devrait se rétablir le plus tôt possible, mais jusqu'à aujourd'hui, la population continue à souffrir énormément.
Le bilan de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda reste mitigé, pourtant salué comme une étape importante vers la désescalade. Jusqu'à aujourd'hui, les combats se poursuivent et la crise humanitaire continue à se détériorer dans les provinces du Nord et Sud Kivu.
Accord de paix RDC-Rwanda, on en parle encore. Entre engagement pris et réalité du terrain, les signaux restent préoccupants. Réunis à Londres le 25 juin pour sa 6e rencontre, le comité conjoint de suivi a pointé une recrudescence des affrontements, l'usage de drones avec des impacts sur les populations civiles, ainsi qu'une dégradation continue de la situation humanitaire dans l'est du pays. Un contexte rendu encore plus critique par la résurgence de l'épidémie d'Ebola. Dans son communiqué, l'Union africaine insiste sur l'urgence des mesures concrètes pour rendre effectif le cessez-le-feu. Retour sur cette réunion dont le condensé signé Alain Irung avec Dona Madimba.
Selon ce communiqué, la RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix signé le 27 juin 2025, y compris en ce qui concerne les frappes de drones, réduire immédiatement les tensions, en particulier autour de Minembwe, et user de leur influence respective auprès de toutes les parties sur le terrain pour atteindre cet objectif, solliciter un ajustement du mandat de l'EJVM+, afin d'y inclure la vérification des engagements pris dans le cadre des accords de Washington, soutenir le déploiement rapide de l'EJVM+, pour lui permettre d'effectuer sa première mission de vérification tout en exhortant tous les acteurs présents sur le terrain à appuyer cette initiative, créer des conditions politiques et sécuritaires propices au processus de vérification conjointe, apporter un soutien total à la conclusion fructueuse des négociations en cours entre la RDC et l'AFM23 dans le cadre du processus de Doha, renforcer la confiance notamment en s'abstenant de tout acte ou de toute rhétorique hostile, en particulier d'attaques politiques ou de propos susceptibles de compromettre ou de compliquer la mise en œuvre intégrale des accords de Washington, y compris dans les enceintes internationales.
La situation de la République démocratique du Congo s'est aussi invitée au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa 10185e séance. Un bilan jugé alarmant a été dressé par le chef de la MONUSCO, James Wan, qui évoque au moins 632 civils tués en Nord-Kivu et en Ituri depuis le 19 mars dernier. Une situation liée à la poursuite des combats dans l'est du pays. À cela s'ajoute la recrudescence de l'épidémie d'Ebola qui fragilise davantage des populations déjà éprouvées par la guerre. Écoutez ce bilan présenté par James Wan au Conseil de sécurité.
La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure complexe, volatile et dévastatrice pour les populations. Des combats intenses se sont poursuivis entre l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, soutenu par les forces de défense rwandaises, et avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et dans certaines localités, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les principales zones de conflit de ces récents affrontements ont été 1. Rubaya, au nord Kivu, un important centre minier. 2. Les environs de Rutshuru, où des combats ont opposé l'AFCM-23 aux FDLR et à leurs alliés. Et 3. Les hauts plateaux du sud Kivu, où les FRDC et leurs alliés affrontent l'AFCM-23 et ses alliés. Les affrontements dans ces zones ont continué d'impliquer l'emploi des drones offensifs et d'armements lourds, qui ont gravement intensifié les risques sur les civils ainsi que sur les infrastructures. Conformément à leurs engagements, l'AFCM-23 s'est partiellement retiré de certaines localités des territoires de Lubero et de Walikale, ainsi que de certaines zones du sud Kivu, notamment d'une partie de la plaine de la Rusizi dans le territoire d'Uvira. Le groupe poursuit néanmoins la consolidation de structures administratives parallèles dans les zones sous son contrôle.
James Wan, chef de la MONUSCO devant le Conseil de sécurité. La situation humanitaire préoccupante dans l'est de la RDC a elle aussi été portée ce vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Lewis Brown Tout, représentant du groupe A3, Libéria, Somalie et RDC, a plaidé pour la fin des attaques contre les populations et les infrastructures civiles tout en appelant au respect strict du droit international humanitaire. On écoute Lewis Brown Tout dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou avec traduction en français par un interprète.
Ce sont les civils qui paient le prix fort de la violence armée, des déplacements et de la peur. La recrudescence du nombre de victimes civiles ne se résume pas à une question de statistiques, non. C'est en fin de compte une idée de la souffrance humaine qui nous rappelle qu'il est urgemment nécessaire que le Conseil honore ses responsabilités, prenne des mesures pour préserver la vie, restaurer la sécurité et promouvoir une paix durable. Nous condamnons, le plus fermement qui soit, les violences perpétrées par des groupes armés, notamment par les AFC et les M23. Les forces démocratiques alliées, le CODECO, la Convention pour la Révolution Populaire et les FDLR. Leurs attaques ciblant des civils, les recrutements forcés, les exécutions sommaires, les enlèvements et les autres violations graves sont inacceptables et doivent dès lors cesser sans plus attendre. Nous appelons toutes les parties à respecter pleinement le droit international humanitaire, y compris les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité. Et nous les appelons à prendre toutes les mesures possibles et imaginables pour protéger les civils et les infrastructures civiles.
Dans un contexte déjà alarmant, une autre urgence vient accentuer la crise dans l'est de la RDC. Ebola progresse pendant que la faim gagne du terrain. L'ONU alerte sur une double crise sanitaire et humanitaire qui atteint un niveau critique en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Des populations déjà fragilisées par les conflits, désormais confrontées à une pression accrue sur leur santé et leurs moyens de subsistance. Détail dans ce papier signé Ella Chembalo.
En République démocratique du Congo, la situation se détériore à grande vitesse. D'après l'ONU, dans une information publiée aujourd'hui, l'épidémie d'Ebola s'étend, passant des 29 à 33 zones de santé touchées en une semaine. Mais derrière le virus, une autre urgence se joue, la faim. Près de 2,9 millions de personnes dans ces zones sont en insécurité alimentaire aiguë. Et au total, dans l'est du pays, 8,7 millions d'habitants peinent à se nourrir correctement. En Ituri, la situation est qualifiée de critique. Plus d'un million des personnes ont besoin d'une aide alimentaire urgente. Ebola et faim se renforcent mutuellement. Côté sanitaire, le seuil de 1000 cas confirmés a été franchi, avec 267 décès. Un chiffre record pour un début d'épidémie en RDC. Selon l'OMS, les centres de traitement sont sous pression, avec des lits occupés à plus de 80%. Cette crise s'explique aussi par un contexte explosif. Insécurité persistante, manque de financement et marché perturbé. Les restrictions liées à Ebola ralentissent les échanges entre une flambée des prix. Sur le terrain, l'aide reste insuffisante. Moins d'un tiers des familles touchées reçoivent un soutien alimentaire. Face à cette situation, l'ONU appelle à une mobilisation urgente. Ebola progresse, la faim aussi, et l'urgence, elle, est totale.
Alerte sanitaire dans la province du Kwango. Le gouverneur intérimaire Fidel Kaoumba a officiellement déclaré le 25 juin une épidémie de choléra dans la zone de santé des Popokabaka. Cette décision fait suite à la confirmation de plusieurs cas positifs par l'Institut national de recherche biomédicale. Depuis fin mai, les autorités sanitaires faisaient déjà état des signaux inquiétants dans cette zone. À ces jours, 136 cas ont été recensés, dont 10 décès. Les autorités provinciales assurent toutefois que des mesures sont en cours pour contenir la maladie et protéger les populations. Plus d'explications dans ces papiers d'Alain Hirong avec Gloriane Lepea.
Dans un message diffusé sur la radio-télévision nationale, les gouverneurs intérimaires du Kwango affirment qu'au total, 11 échantillons ont été envoyés au laboratoire national des références à Kinshasa pour analyse. Les résultats ont confirmé 3 cas positifs de choléra, un nombre suffisant pour déclarer officiellement une épidémie conformément aux normes sanitaires en vigueur. Dès la notification de premier cas suspect, une équipe médicale a été déployée sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique, de mener des investigations et d'assurer la prise en charge de malades aux côtés des services sanitaires locaux, indique le gouvernement provincial. Face à cette situation, Fidel Kaoumba appelle la population au calme et au respect strict des mesures de prévention. Il recommande notamment les lavages réguliers de mains à l'eau propre et au savon, la consommation d'eau potable ou traitée, l'utilisation systématique des latrines, les maintiens de la propreté de l'environnement ainsi que la bonne cuisson des aliments avant leur consommation.
Sur un autre plan, celui de la sécurité, une relative accalmie est observée en Ituri. À Djougou, le calme revient progressivement dans plusieurs localités après de mois de tensions et les populations commencent à reprendre leurs activités quotidiennes. Toutefois, la situation reste fragile. De nombreux déplacés hésitent encore à regagner leur village par crainte d'un éventuel retour de violence. Quant aux causes de ce répit, elles continuent de diviser. Certains l'attribuent au cessez-le-feu annoncé lancée par la rébellion CRP, tandis que d'autres évoquent plutôt les effets du récent changement à la tête de la province. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Depuis près de deux semaines, plusieurs localités des secteurs de Walendoutati, Piti et Chefferie de Bama Nord connaissent une accalmie inhabituelle après plusieurs mois d'insécurité. Conséquence immédiate, la circulation reprend progressivement sur plusieurs axes routiers, notamment entre Largou, Blukwa, Tché, Saliboko et Katoto. Agriculteurs, commerçants et habitants fréquentent de nouveau les champs et les marchés, renouent ainsi avec les échanges entre communautés autrefois interrompues par les affrontements. Charité, Banza et acteurs de la société civile dans la zone.
Il y a une circulation qui jadis n'existait pas. Les gens entrent aussi dans la brousse pour cultiver. Les gens aussi fréquentent des marchés. Il y a ceux de Bayam Nord qui vont au marché à Walendoutati, par exemple à Zuda. Il y a ceux de Bayam Nord qui fréquentent aussi le secteur de Walendoutati pour le marché de Masumbuko.
Toutefois, à Boulé, dans le même territoire de Djougou, de nombreuses familles déplacées hésitent encore à regagner leur village. Un responsable religieux ayant requis l'anonymat explique que cette prudence par le climat de méfiance qui persiste entre certaines communautés et les militaires des FADC, après plusieurs affrontements contre les combattants de la CRP où des civils étaient parfois assimilés à des combattants. Pour lui, le retour durable de la paix passera aussi par la restauration de la confiance entre les populations et les forces de défense. Mounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs de guerre, les FARDC renforcent leurs capacités. 8 militaires ont achevé ce vendredi une formation spécialisée sur la neutralisation, l'enlèvement et la destruction de ces dispositifs dangereux. Une formation organisée par le service des luttes anti-mines de la MONUSCO UNMAS pour mieux répondre à une menace encore très présente sur le terrain. Objectif, protéger les populations souvent victimes de ces engins. Mais qu'en pensent les bénéficiaires? Réponse avec Marc Marofimbo.
Après une première phase en avril, 6 semaines de formation ont permis à 8 militaires des FARDC de renforcer leurs capacités en identification, neutralisation et destruction des engins explosifs. Pour le capitaine Paluku Kalubenge Sylvestre, participant, cette formation est essentielle pour sécuriser les populations.
Cette formation nous est utile. Nous devrons maintenant jouer le rôle de la sonnette d'alarme pour l'enlèvement des engins non explosés. La MONUSCO a fait sa partition. Elle nous a donné la matière, quitte à nous maintenant de la capitaliser.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu a salué cet appui et souhaité voir ce type de formation s'étendre à la police nationale. Le commissaire divisionnaire Louis Sego Karawa.
Votre mission sera désormais de mettre ces savoirs au service de la nation, de vos frères d'armes et de la protection des populations civiles. Je saisis cette opportunité pour demander à UNMAS d'étendre ses formations aux unités de la police nationale congolaise et au centre congolais des luttes anti-mines afin de répondre aux besoins quotidiens de la sécurité des civils dans les zones anciennement sous le contrôle de groupes armés au Nord Kivu.
Une session spéciale est annoncée dans les prochains jours pour renforcer davantage ses compétences. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nouvelle escalade entre Kiev et Moscou. Au moins 5 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer après de nouveaux échanges de frappes ce samedi 27 juin. Selon les autorités, 2 personnes ont été tuées côté ukrainien dans des bombardements russes, tandis que 3 autres ont perdu la vie en Russie dans des attaques attribuées à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, le bombardement reste quasi quotidien. Un conflit devenu le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, la contestation s'annonce massive. Des centaines de rassemblements sont prévus ce samedi 27 juin à travers tout le pays pour dénoncer la politique, les méthodes du président Donald Trump. Point d'orgue, une grande marche attendue à Washington. Ces mobilisations réunies sous le slogan No King's Day, pas de roi, intervient en pleine célébration de 250 ans de l'indépendance américaine. De New York à Los Angeles, en passant par Chicago et Miami, marches, événements culturels et fêtes des quartiers vont se multiplier. Objectif affiché par les organisateurs, rejeter ce qu'ils qualifient de réécriture blanche de l'histoire américaine.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, le père Éric Merte, à la tête de 14 centres d'accueil pour jeunes en rupture familiale, répartis entre Lubumbashi et Kipushi. Il accompagne au quotidien des centaines d'enfants vulnérables. Dans cet entretien, il explique le rôle de ces maisons d'encadrement et revient sur les défis majeurs auxquels elles sont confrontées. Une interview menée par Paulin Munanga.
Père Éric Merte, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la mission de tous ces centres-là?
La première mission, c'est attirer les enfants qui vivent sur la rue vers notre centre Bakanjaville. Et à partir de là-bas, nous regardons ce que nous pouvons faire pour les enfants et éventuellement réintégrer dans leur famille ou bien les mettre dans un de nos programmes de scolarisation.
Et une fois que ces enfants sont accueillis dans vos centres, qu'est-ce qu'ils font exactement?
Premièrement, à Bakanjaville, nous commençons déjà l'alphabétisation. Après, nous avons le deuxième centre, c'est Bakanja Centre. Là, nous donnons le programme de l'école primaire. Après, nous donnons aussi la possibilité d'alphabétiser encore davantage, ou ceux qui ont déjà été à l'école, on donne le programme scolaire rattrapage. Et une fois qu'ils sont sortis là-bas, il y a 4 centres professionnels, entre autres, donc, Magone, où nous prenons ceux qui sont le moins intelligent. C'est ça le but de notre centre, donner à ceux qui sont moins intelligents quand même la possibilité de s'insérer plus tard dans la société, dans le monde du travail.
Les moins intelligents, alors les plus intelligents, qu'est-ce que vous en faites?
Donc il y en a qui vont à la Cité des Jeunes, un autre centre professionnel. Il y a 2 fermes que nous avons, la ferme Jacaranda, la ferme Tchem Tchem, et il y a aussi la maison de jeunes. Ceux qui ont vraiment de bonnes performances, à ce moment-là, nous essayons de les intégrer ou bien dans l'école technique Salama ou bien dans le collège Imara.
Est-ce que vous faites face souvent à des enfants qui fouillent les centres, qui retournent sur la rue?
Oui, ça arrive. Donc, surtout dans les 2 premières étapes. Donc, ils sont de bonne volonté de quitter la rue, mais à un certain moment, ils rencontrent un ami qui vient se présenter aussi à Bakanjaville. Et donc, il dit, voilà, moi je vis encore toujours bien, il y a un papa qui nous donne chaque fois de la nourriture, toutes ces histoires-là, et donc il repart de nouveau dans la rue. Mais les portes restent ouvertes, donc ils peuvent fuir. Notre conversion personnelle n'est pas se fait en une fois, et donc nous croyons aussi que l'enfant, à un certain moment, il peut dire, voilà, je rentre quand même de nouveau dans le centre, et donc la porte reste ouverte. On ne les exclut pas, parce qu'ils ont pris la fuite. Ici, il y en a qui ont pris la fuite, ils ont été même en prison entre-temps, et donc ils reviennent de nouveau.
Quels sont les métiers que ces enfants apprennent ici sur place au centre Magone?
Ici, nous avons plusieurs possibilités, mais aussi nous avons des formations courtes. Le programme scolaire normal, il y a la soudure, la construction, coupe-couture, art, cordonnerie et agriculture. Même viserie, il n'y en a pas. Là, on est en train de réfléchir encore. Mais après, nous avons aussi des formations courtes comme esthétique. Donc ça, c'est 4 mois. Il y a pour les filles, apprendre à rouler avec des motos et entretenir les motos et la plomberie. Tout ça, ce sont 3 formations courtes.
Les filles aussi apprennent à conduire une moto?
Oui, on est en train de terminer avec le premier groupe. Au départ, ils étaient à 7. Maintenant, il y en a encore 3 qui sont restés. Mais donc, ils sont capables de rouler avec une moto, oui.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, question de donner chaque jour à ce grand gaillard la nourriture, pouvoir payer les professeurs, même si les externes doivent payer un peu de l'argent. Mais bon, il y a une série qui ne sait pas payer non plus, et donc c'est chaque fois chercher de l'argent chez les entreprises. On avait des entreprises qui nous soutenaient, mais qui ont changé de propriétaire, et donc c'est de nouveau recommencer à zéro. On a été même jusqu'au gouvernorat, on a parlé avec des ministres pour genre et famille, mais ils promettent, mais il n'y a rien qui arrive.
Qu'est-ce que vous gagnez en encadrant tous ces enfants-là dans vos différents centres?
Ce qui nous rend le plus heureux, ça c'est qu'on a vu, ça fait 20 ans que je suis occupé avec ces enfants, on les a vus sur la rue, mendier et prendre la colle et toutes ces histoires-là. Le plus qui nous rend heureux, ça c'est que ce garçon quitte la rue, il s'insère dans une entreprise et donc il commence à s'installer d'abord encore en famille, mais après il y en a qui se marient pratiquement une année après, quand ils sortent de nos centres et qu'ils sont heureux de ce qu'ils ont vécu.
Père Éric Merthe, je vous remercie.
Merci bien.
C'était le père Éric Merthe, coordinateur des centres d'encadrement pour jeunes en rupture familiale à Lubumbashi et Kipushi. On entretient avec Pauline Munanga. Fin de ce journal de 18h. Merci de faire confiance à Radio Okapi. Toute l'actualité en continu sur nos plateformes numériques. Réécoutez ce journal en podcast sur notre site. Présentation Gisèle Cage, mise en onde Jean-Claude Nsiala. Profitez de la suite de nos programmes et excellente soirée.